Vous avez l'air bien pressé ce matin.
Je dois m'habiller, je vais sortir.
Vous allez où?
De l'autre côté commence le pays de ceux que l'on ne nomme pas.
Quand reviendrez-vous?
Ce sera vite fait.
Il y a de belles personnes qui ont dû être bien heureuses de vous voir.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Un de ces êtres qui reviennent de l'inconnu pour nous délivrer des messages.
Bonjour, donc je suis Alice Malinge et je suis contributrice pour la radio du U. Et j'ai proposé à Fabienne Radi et Nina Childress, deux artistes, d'intervenir. Elles ont proposé quelque chose qui s'appelle Parodie et Confusion. Postiche et Confusion. Je suis confuse, voilà, c'est ça. Donc en quelques mots, j'aimerais d'abord les présenter. Et d'abord, pour le faire, j'ai fait une petite liste de mots et de noms propres. Donc je vais commencer. Les boîtes Tupperware, Flannery O'Connor, les épaulettes, les savons, les colonnes vertébrales, les peintures pour chiens et pigeons, Simone de Beauvoir, les jeans moulants pour hommes, les raquettes, les culottes, Pascal Brutal, les coupes de cheveux, Sissi. Donc Nina Childress et Fabienne Radi créent un art, peint pour l'une et écrit pour l'autre, fondé sur des antagonismes forts. Pardon. Le convenable, le déclassé, l'harmonieux et le dissonant. Fabienne Radi, pour commencer, est originaire de Fribourg et elle vit à Genève. Et elle a navigué, dit-elle, entre la géographie, la géologie, la bibliothéconomie, la communication et les arts plastiques. Elle a fini par faire des études à la HED, la Haute École d'Art et de Design de Genève, où elle enseigne d'ailleurs, aujourd'hui, elle enseigne la pop culture depuis 2008. C'est quelqu'un qui écrit, qui donne des conférences, qui crée des objets, souvent en relation avec la géologie, l'art contemporain, la sémiologie, la sociologie, le cinéma, etc. Et elle produit donc des textes, des livres, des affiches, des objets. Elle fait aussi des performances. Et depuis 2005, elle se définit vraiment comme une auteure. Elle utilise souvent le format de la chronique. Et elle a recours à l'autofiction et tout récemment à paraître à la fiction tout court. Elle a écrit « S'apprend » aux éditions du MAMCO, entre autres, également « Sans titre » aux éditions Boa Books. Elle écrit, elle n'est pas critique d'art, elle n'écrit pas donc sur l'art, mais elle a des écrits à partir de l'art. Et je dois dire qu'elle a la faculté de rendre les choses intelligente et drôle, elle noue des relations improbables, assez toujours articulées, entre des champs culturels très éloignés. Et elle a d'ailleurs écrit sur Nina Childress, et c'est d'ailleurs des choses sur lesquelles elles vont revenir toutes les deux. Elle a écrit en 2011 un texte qui s'appelle « L'art tiré par les cheveux de Nina Childress », suite à une exposition donnée au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Genève par Nina Childress. Et puis ensuite, elle a écrit en 2014 un texte qui s'appelle « Peindre des colonnes vertébrales », également à partir des tableaux de Nina Childress. Donc Nina Childress, quant à elle, est née à Pasadena, donc j'ai regardé, c'est en Californie, et elle vit à Paris. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être à travers son parcours de chanteuse dans un groupe de punk alternatif. D'ailleurs, on a entendu juste avant un extrait du groupe Lucrat Milk dans les années 80. Qu'elle a quitté, enfin plutôt qu'ils ont arrêté de produire parce que Nina voulait aller vers une musique plus proche de Jefferson Airplane, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas des autres membres du groupe. Tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui aime la rupture de style et qui le fait également dans son travail peint. Et donc si on regarde ses peintures, on voit des grisailles séduisantes, des monochromes fluo stridents, des aplats, des rendus hyper réalistes, des flous très sales ou très brillants. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup au vieillissement de la couleur. Comment les vieilles bandes de films des années 70 ou 60 vieillissent et comment les vieilles photos de famille aussi se transforment le marron en orange un peu criard. Et elle déclare, non sans ironie, vouloir réussir à inventer une peinture à la fois conceptuelle et idiote. Pour terminer, on peut dire qu'elle a découvert sa famille de peintres, sa famille artistique pardon, dans les années 80 lorsqu'elle rejoint le groupe Les Frères Ripoulin. Avec Pierre Huyghe, Claude Kloski, Jean Faucheur, Ox, Blas, Manu et Trois Carrés. Et aujourd'hui, elle a de nombreuses expositions. D'ailleurs, elle a une exposition qui va ouvrir à partir du 20 octobre, qui s'appelle « Elle aurait dû rester au lit » à la Galerie Bernard Jordan. Et puis deux autres expositions qu'on peut encore voir à Villejuif, à Occidental Temporary, et puis aussi au domaine de Kerguénec, en Bretagne. Elle enseigne aussi à l'École nationale supérieure d'art de Nancy depuis 2007. Voilà. Donc maintenant, je vais leur laisser la parole. Et je les remercie à nouveau d'avoir accepté cette invitation.
Ok, merci Alice. Donc c'est postiche et confusion. Et le postiche, c'est Nina. Et la confusion, c'est moi. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par rapport au titre, puisque cette invitation se fait sous l'intitulé... Faisons de l'inconnu un allié, que les titres, c'est un peu mon dada. Je me suis posé la question de ce titre, Faisons de l'inconnu un allié. Et inconnu, pour moi, c'est spontanément, c'est deux choses. C'est le soldat inconnu et puis un inconnu vous offre des fleurs, qui est une publicité des années 70. Et puis aussi, ce qui m'a frappé dans ce titre, c'est l'utilisation de l'impératif. Qui est faisons, enfin registre politique ou publicitaire, venez vivre la magie Walt Disney ou redécouvrons l'énergie. Voilà, pour commencer, on va vous passer un petit coup d'inconnu qui vous offre des fleurs.
Offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. D'ailleurs, Impulse, ça veut dire impulsion. Impulse, c'est à la fois un parfum très féminin et un déodorant fidèle. Impulse, le parfum de toilette déodorant. Quand vous le portez, tout peut arriver.
Je voulais juste remercier Fabienne d'avoir retrouvé cette petite ligne de basse funky qui a fait mes délices dans les salles obscures dans les années 70. Nous refait vivre vraiment cette période du cinéma avec des publicités tournées en 35 mm et des jeunes hommes avec des vestes à épaulettes. Enfin,
et des coupes de cheveux des années 70, un peu Souchon dans L'été meurtrier sur celui-là.
Oula.
Et puis bon, enfin, moi j'aimais bien ce côté, enfin, une certaine naïveté de la publicité qui n'existe plus. Vu qu'on va faire des liens tirés par les cheveux, on va tout de suite parler en fait de... Comment on s'est rencontrés? C'est par le biais du MAMCO, puisque Nina donc, a fait une exposition en 2011.
Et en 2009, non, c'est pas en 2009 qu'on s'est rencontrés, je sais pas.
Moi, je t'ai rencontrée sur la deuxième, mais enfin, la première fois que j'ai vu des œuvres, c'était, il me semble, celle de 2011. Non,
mais non, c'était en 2009.
Bon, d'accord, Fabienne. Alors c'était en 2009, c'est celle où il y avait Simone de Beauvoir, c'est ça?
Oui.
Ok. Et je ne connaissais pas du tout en fait ce que faisait Nina, ni qui elle était. Et ce qui m'a tout de suite frappée, c'était le fait qu'il y ait beaucoup de cheveux. Là, il y avait toute la salle sur Simone de Beauvoir avec des tableaux de toi déguisés en Simone de Beauvoir.
Coiffés
avec des tresses ou avec turban. Quand j'ai vu la deuxième exposition, il y avait encore plus de coiffures parce qu'il y avait Sissi, donc il y avait beaucoup de tresses de Sissi. Il y avait toi aussi en Sissi, c'est un truc récurrent chez toi.
Il faut peut-être préciser que l'impératrice Sissi avait des cheveux très longs qui lui descendaient presque jusqu'aux pieds. Et en fait, elle était toujours coiffée de tresses qu'elle se mettait en couronne sur la tête. Donc c'était une sorte de reine coiffée de cheveux. Voilà, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de nattes. D'ailleurs, c'est assez dur à peindre les nattes, bon, ça c'est une autre question. Mais Fabienne a écrit ce texte dont parlait Alice, là, qui est très drôle, sur les cheveux. Et en fait, bon, c'est vrai que quand j'ai rencontré Fabienne, elle est venue me voir après une conférence, enfin, pas une conférence parce que moi je ne suis pas une grande oratrice, mais J'expliquais mon travail assez sincèrement et pragmatiquement au MAMCO, et elle est arrivée en me disant « Oh, mais vraiment, moi, c'est tout ce que j'aime, tout ça. » Et je sais pas, j'ai tout de suite eu un élan de sympathie envers elle. Et finalement, alors que bon, d'habitude, je suis un petit peu timide dans ce genre de circonstances, mais là, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Et assez vite, elle m'a proposé d'écrire quelque chose, et c'est quand j'ai lu son travail que j'ai réalisé que vraiment c'était ce genre de paroles que je voulais mettre sur ma peinture, parce que c'est pas sérieux, c'est pas redondant, c'est pas...
Voilà, mais c'est pas une parole d'expert, c'est ça en fait, c'est tout la question qui m'intéresse dans l'écriture, comme disait Alice. Moi j'écris pas tellement sur l'art, parce que je suis pas historienne de l'art du tout, ni critique, mais j'écris beaucoup à partir de par exemple, moi je connais rien à la peinture, enfin pas grand chose disons, et je me suis dit bon ben par quel biais je peux entrer dans la peinture de Nina. Et ben c'était par, il faut trouver un détail, mais c'était les tresses. Et puis après, bah, ça a été les slips, et puis après les colonnes vertébrales. Enfin, ce qui est bien avec Nina, c'est qu'il y a quand même souvent des motifs récurrents, donc on peut trouver des points de vue.
Tu peux pas faire de la critique, des textes sur des peintures abstraites, si tu peux aussi.
Non, mais je veux dire, moi j'y connais rien en technique et tout, mais bon, maintenant je commence un petit peu à force de regarder tes peintures, voilà. Et par exemple, moi je trouve très intéressant d'aller voir des expositions avec Nina. Là, dernièrement, on a été voir une expo de Yves Bellorget. Et elle va tout près des tableaux, elle regarde de côté, enfin elle regarde vraiment le côté matière, quoi. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Et puis après, on a fait, en fait, elle m'a proposé pour son deuxième catalogue. Le premier s'appelait Tableau, et le deuxième s'appelait Nouveau Tableau. et puis elle m'a dit, écoute, tu peux écrire ce que tu veux, voilà, je vais mettre ça dans mon catalogue, vas-y.
C'est surtout, ouais, je ne voulais pas de l'éternel texte critique, le parcours, l'interview, comme il y avait un petit peu dans le premier, et ça me faisait plaisir d'avoir vraiment un texte de création. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que tu dis, parce que moi je suis vraiment frappée, à chaque fois que tu parles de mon travail, c'est tout à fait ce que j'avais en tête. Et bien souvent, au contraire, je lis les journalistes et des gens spécialisés, et là, ils vont dire des sortes de tartines avec des mots ronflants, et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, c'est ça qui est très frappant pour moi, c'est... tu te dis amateur, enfin pas spécialiste, mais en même temps, c'est tout à fait juste. Et non seulement sur les résultats, mais aussi sur l'intention. Donc voilà, c'est vraiment... formidable, quoi. Donc, bon, bah, le MAMCO, ouais. Ça a été quand même pour moi un lieu, c'est vrai, où j'ai eu mon travail visible par des gens des sphères supérieures, on va dire, allez, hop, pour peut-être la première fois, et la rencontre avec Fabienne, voilà. Donc, j'ai voulu amener un petit travail qu'on a montré sur le MAMCO, pour le MAMCO, qui était pour les 25 ans du MAMCO, je crois, les 30 ans, je ne sais plus.
Les 25.
Les 20, bon, voilà.
Ah, l'anniversaire de l'art, c'est pas l'anniversaire du MAMCO, c'est l'anniversaire de l'art de Robert Filliou, voilà.
Bon ben. Ok, et je raconterai MAMCO, ce que c'est après. Voilà.
Miss Hedy Lamarr.
That's right.
What do you hope for him?
Me?
For you.
Hedy Lamarr. Orson. Orson.
It's Hedy Lamarr.
Yeah?
Advice? I hardly give advice. I give suggestions.
Well, let's make it a suggestion.
What do you hope for him? Let me ask this. What do you think he hopes for himself? A stage career primarily, or a movie career primarily, or what?
Just to be a success.
Just to be a success, all right.
Hedy Lamarr.
It's Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr.
Just to be a success.
Alors voilà, en quelque sorte, on reste un petit peu dans le domaine de la publicité, de la publicité Impulse qu'on avait tout à l'heure, parce que c'est une sorte de mix entre un jeu télévisé et les publicités qui étaient dedans. Et ce jeu télévisé avait comme host un monsieur qui s'appelait Orson, on entend Orson comme ça, et on entend surtout la voix d'une actrice sur laquelle j'ai travaillé, c'est Hedy Lamarr, qui est une actrice des années 40-50 hollywoodienne. Et donc, quand le MAMCO m'a demandé de faire cette petite carte postale sonore, j'étais très obsédée par cette actrice et j'ai demandé à mon fils Orson, comme le présentateur du jeu, de faire ça. Il m'a fait un petit mixage savant. Moi, je suis bien incapable de faire ce genre de choses techniques. Voilà, mais c'était juste un prétexte. Et c'est aussi pour dire que c'est vrai, moi, j'ai de temps en temps des obsessions et si on me demande quelque chose, ben, je vais juste caser mon obsession à l'intérieur. Voilà.
Okay. Peut-être de manière courte, on pourrait demander à Alice justement de présenter ses cartes postales.
Oui, bien sûr. Vous m'entendez ? Oui, c'était des invitations qui étaient faites à une quinzaine d'artistes à l'occasion de l'anniversaire de l'art au MAMCO. C'était l'anniversaire de l'art, c'est un anniversaire qui a été décidé par Robert Filliou, qui doit être fêté normalement tous les 17 janvier et qui est en fait le début de l'anniversaire. C'est comme une forme de grève, en fait, quelque chose qui ne devrait jamais s'arrêter. Et donc, nous, au MAMCO, tous les ans, on fête l'anniversaire de l'art. Et 2 ans d'affilée, avec la radio Espace 2, on avait fait des cartes postales sonores et on avait invité certains artistes, notamment Nina et puis Fabienne aussi, à faire des cartes postales sonores. Voilà.
Ok. Moi, je vais rebondir de nouveau sur les cheveux. Donc, il y a un intérêt commun entre Nina et moi. Moi, j'avais écrit aussi un truc sur la barbe de Baldessari, parce que les barbes, ça m'intéresse, enfin, tout ce qui est poil. Et puis, je pense que j'ai été, comme beaucoup de jeunes gens, enfin, de jeunes filles des années 70, traumatisée par Farrah Fawcett. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Farrah Fawcett.
Bah, tout très bien, oui,
oui.
Bien sûr.
Et puis, c'est un truc, par exemple, aussi, parce qu'on s'envoie souvent des vidéos. Et par exemple, j'ai découvert, grâce à Nina, un Christopher Guest qui a fait un film qui s'appelle Best in Show, parce qu'on s'envoie des vidéos vraiment de films assez
lourdes,
lourds comme ça. Et là, bah, je veux dire, là, c'était aussi au niveau capillaire, mais au niveau des chiens, au niveau canin. Et puis, j'avais fait un poster aussi qui s'appelle Poils et bâtiments, où en fait, je mettais en comparaison des coupes de cheveux avec des bâtiments d'architecture moderniste. Le premier étant David Lynch, que j'avais mis avec le Walt Disney Hall de Frank Gehry, qui a exactement la même mèche, on va dire, où il y a Elvis avec la chapelle de Ronchamp de Le Corbusier. Et puis chez Nina, donc beaucoup de, pas seulement de cheveux, mais de postiches.
Mais c'est drôle que tu parles de Farrah Fawcett, parce qu'il y a très longtemps, à l'époque du morceau qu'on a entendu, j'avais fait un autoportrait de moi avec une brosse à cheveux. Et à l'époque, j'étais en train de sortir des cheveux courts de punk. Et pour ça, je m'étais acheté un postiche avec une grande natte. Et j'avais arrêté les décolos, les teintures de toutes les couleurs. Donc, je m'étais reteint les cheveux en châtain. Et je m'étais mis ce postiche qui pendouillait, comme ça, pour avoir l'impression d'avoir des cheveux longs. Et je m'étais fait donc un autoportrait avec cette coupe et avec à la main une bouteille de shampoing Farrah Fawcett, où on voyait sur l'étiquette Farrah Fawcett. Et c'est Pierre Huyg, enfin Pierre Ocao à l'époque, qui m'avait acheté 500 francs, je crois, ou 300 peut-être même, le tableau. Je crois que c'était avant que je sois dans les Ripoulins. Voilà, il avait vu une expo et un peu pour me draguer, il m'avait acheté le tableau avec. Alors je ne sais pas s'il a ce tableau.
D'accord, ben, je ne connaissais pas
tu vois,
ce
donc
lien.
Farrah Fawcett a été aussi importante pour moi, ainsi que Barbie et d'autres blondes. Les blondes aussi, c'est.
Voilà, et maintenant on va faire un lien improbable pour le prochain extrait sonore. En fait, c'est que j'avais choisi. C'est un extrait d'un film qui s'appelle Taking Off de Milos Forman. C'est un film de 1971. C'est dommage parce que vous n'allez pas le voir, mais enfin, c'est un espèce de casting de jeunes adolescentes à New York au début des années 70 et qui chantent assez mal et c'est des coiffures qui tournent mal comme les chansons, enfin comme la chanson, mais elles sont très touchantes, voilà.
Thank you.
Can I come back?
Okay. Next, please.
Why we're not kissing? Let's get a little sentimental. Turn the lights down low. Troubles come and go, but while we're together, we can live forever. There's time for sorrow, maybe tomorrow, but now it's time to.
Okay. Merci, on s'excuse pour le début qui était un peu maladroit, mais comme après on va parler de la maladresse, c'est très bien aussi. Oui, puis je voulais enchaîner en fait, parce que Nina et moi, on a le même âge, mais on n'a pas dû avoir la même adolescence. Je pense que quand elle était punk à Paris, moi j'étais encore baba dans ma campagne à la Grande Gruyère, et puis je cueillais des champignons. Donc,
moi aussi, je connais des champignons.
Oui, oui. Mais voilà, donc on n'avait déjà pas les mêmes coupes de cheveux. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est les décalages. Moi, je suis une ancienne géologue et géographe, donc tout ce qui est centre, périphérie, c'est des choses qui m'intéressent. Là, on va enchaîner directement sur... je vais te laisser me présenter...
Et en fait, oui, on va revenir à Impulse et au double produit, enfin le déodorant et parfum. Oui. Et là, je voulais aussi réfléchir au double prénom, Christian Bernard, le directeur du Manco, et un autre double prénom que j'aime bien, parce que j'adore la chanteuse, c'est Nina Simone. Et quand je travaillais sur Simone de Beauvoir, non, en fait, j'écoutais pas Nina Simone, je l'ai écoutée après, mais je pensais tout le temps ça, Nina Simone, et je regardais ses photos sur Google Images, et elle a souvent des looks pas possibles, enfin bref. Et au détour du chemin, j'ai aussi écouté ses disques, et parmi ses disques, il y a vraiment ma chanson préférée de tous les temps, qui s'appelle The Look of Love, qui n'a pas été créée par elle. On parlera de sa créatrice un peu plus tard, et on va écouter The Look of Love.
The look of love is in your eyes. The look your smile can disguise. The look of love is saying so much more than these words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, the look the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to hold you, now that I have found you, don't ever go.
Ah, c'est beau, hein. C'est quoi, Burt Bacharach ou je sais plus quoi, le compositeur génial,
ouais,
qui a fait
l'air, hein.
Toute la pluie tombe sur moi, tout ça. Et attention, il y a une autre version de cette chanson qui n'a rien à voir, par un groupe New Wave, je ne sais plus lequel, The Look of Love, qui n'est pas la même chanson. Bon, bref. Donc, je demande à Fabienne, officiellement, comment tu traduirais, toi, The Look of Love ?
Je ne sais pas, le look de l'amour, non, je ne sais pas, mais c'était juste pour enchaîner par rapport à les problèmes de traduction. J'étais assez mauvaise dans l'enchaînement. Oui, parce qu'en fait là on va parler des problèmes de traduction et de confusion, parce que je travaille souvent là-dessus, c'est, par rapport à mes textes. Je trouve que c'est un bon truc, les malentendus pour générer du texte. Moi j'aime bien en général soit les mots qui sont difficiles à prononcer, comme transsubstantiation, déterritorialisation, apichapongwa, c'est à cool. La dyslexie, par exemple, j'ai une copine qui dit toujours Laurent Garros au lieu de Roland Garros, ça me plaît beaucoup. Et puis, je vais prendre un exemple. En fait, j'ai une amie allemande qui m'avait demandé d'écrire un texte pour une exposition à Berlin ou je ne sais plus trop où. Et elle m'avait envoyé toutes les informations en allemand. Et puis elle m'a dit, oh, il y a un groupe de discussion sur Facebook et tout. Et j'ai lu, je ne comprenais rien. C'était tout en allemand. Et je voyais le mot bird, bird, bird. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas, il faut que j'écrive quelque chose sur les oiseaux et sur le fait que je ne comprends pas ce qu'elle me demande. Donc j'écris un texte qui est en fait un texte qui répond à la question comment s'en sortir quand on ne comprend pas la question qu'on nous pose. Et je me suis souvenue qu'à une époque, pendant longtemps, j'ai confondu le titre d'un livre de Romain Gary qui s'appelle « Les oiseaux vont mourir au Pérou ». Je ne sais pas si vous connaissez. Et il y avait, dans les années 70, un livre qui est devenu une série TV qui s'appelait « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Et moi, pendant 20 ans, j'ai pensé que c'était « Les oiseaux se cachent pour mourir au Pérou ». Voilà. Donc j'ai écrit toute une histoire sur cette histoire, de confusion. Et puis, enfin, bon, je trouve que c'est les confusions, les malentendus, c'est un bon truc pour générer du texte. J'aime bien aussi les problèmes de traduction, aussi les questions de quand on prononce mal les noms. Enfin, vu que moi, je suis quand même souvent, j'habite à la frontière alémanique en Suisse, mais je suis beaucoup avec des gens français. Et j'aime bien cette idée, par exemple, est-ce qu'on doit dire Walter Benjamin ou Walter Benjamin, quoi. C'est des grandes questions. Là, on a au Mamco Wade Guyton ou Wade Guyton ou Wade Guyton, enfin voilà.
Wade Guyton.
Voilà.
Peut-être.
Et puis, tu ne devais pas nous parler de la chanson.
Ben oui, si, on va revenir à The Look of Love et sa créatrice, Dusty Springfield. Alors, Dusty Springfield, je conseille sur YouTube la version du Look of Love où elle est avec un postiche, mais de 50 kilos. Donc elle a une tête trois fois plus grosse que la normale. Et elle a une robe bleue et il y a des mecs habillés en bleu qui poussent des sortes de cubes avec sa photo en noir et blanc. Et ils font des sortes de positions. Mais tu l'as regardée ou pas, Fabienne, cette...
Non,
je te l'ai envoyée.
Non, mais tu sais, j'ai eu un horaire très chargé,
oui,
là, pour des bonnes raisons.
Je connais ta vie, compliquée. Mais, donc voilà, donc, je me disais Dusty Springfield. Dusty, elle s'appelle quand même Poussiéreuse. C'est quand même son prénom, c'est Poussiéreuse. Et Springfield, c'est le chant du printemps ou le chant des ressorts. Voilà, donc tout ça, c'est des choses à méditer. Bon, moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt de photographier mon écran qui diffuse ce clip et en faire une peinture éventuellement. Je ne sais pas si je le ferai, mais elle est sans doute trop connue pour moi. Je préfère en fait les gens un peu moins connus.
D'accord. Ok, on va revenir sur les titres, puisqu'on a parlé on a parlé très légèrement du titre de Nina Simone. Parce que la question du titre, c'est quelque chose qui m'intéresse et dont je m'empare aussi pour écrire. C'est aussi un truc à part les malentendus. Et j'avais écrit un livre qui s'appelle Sans titre, sans titre. Donc je vais expliquer que sans titre, c'est sans le chiffre, sans. Et puis, ça veut dire que j'ai enlevé toutes les œuvres qui s'appelaient sans titre. C'était un livre concept en fait. On m'avait demandé d'écrire sur la collection du Fonds cantonal d'art contemporain de Genève et on m'a dit ah oui, on aimerait que des gens écrivent différemment que des historiens d'art, etc. Donc proposez-nous, faites-nous un projet, enfin c'était un concours. Et je leur ai dit, bah écoutez, ça m'intéresse, donnez-moi la liste des 3500 œuvres, puisqu'il y en a 3500. Mais j'aimerais que les titres, j'aimerais pas savoir quels sont les auteurs, les artistes, je veux pas savoir si c'est de la photographie, de la sculpture, de la peinture, je veux pas savoir la date, etc. Et donc, ils m'ont donné 3500 titres. J'ai enlevé tous les 100 titres, ce qui fait à peu près un tiers du catalogue. Et sur les restants, les 2000 restants, j'ai sélectionné 100 titres, uniquement à partir du titre, parce qu'il y avait des titres que je trouvais... il y en a par exemple un que... Le premier que j'avais sélectionné, c'était « Soif de cris lumineux 23 ». Je me dis, mais qu'est-ce que... Enfin, voilà. Et quand une fois que j'ai eu ces 100 titres, je me suis dit, je vais écrire des textes sur ces 100 titres sans savoir ce que c'est. Et puis je me suis donné comme protocole de faire ça en 8 semaines. Donc j'ai calculé, il fallait que j'en fasse tant par semaine. Très vite, je me suis dit, oulala, mais je vais être complètement dépassée. Donc je vais mettre dans le protocole que pour chaque titre, je peux écrire de 1 mot à 5 pages maximum. Et voilà. Et puis donc c'est devenu ce livre sans titre, sans 100 titres. Et maintenant, c'est assez drôle parce que des fois, je me balade dans les expos, je vois... des œuvres et je découvre le titre et je découvre en fait qu'est-ce que c'est comme œuvre. Et voilà.
Parce que tu ne les avais pas vues en fait.
Ah, je les ai pas vues du tout. Donc,
Si, quand même, tu avais écrit sur mon vilain chinois.
Alors, il y en a, effectivement, il y a peut-être trois œuvres dont le tien Sleep. Non, j'ai écrit
non, sur c'était le vilain chinois.
Ah oui, le vilain chinois. Oui, c'est vrai.
Une œuvre.
Mais autrement, il y avait des trucs de Hodler, des trucs de John Armleder, enfin des choses j'ai découvert tout à la fin. Voilà. Donc,
Tu sais, Fabienne, que je vais utiliser ton bouquin avec mes étudiants pour faire un séminaire sur le titre. Et on va les faire...
Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ton... Moi, ce que ça m'intéresse, c'est le titre de tes expos aussi. Peindre et acheter, je trouve que c'est un super titre. C'était l'avant-dernière, non, je crois.
Oui.
Et puis la dernière, c'est « Elle aurait dû rester au lit ».
Il y a eu le Requiem du stream même entre les deux.
Ouais.
Je ne sais pas, souvent, j'ai quelques principes. Déjà, je ne veux pas, je veux pas de titre en anglais, ça c'est le truc, non. Pas de titre en anglais, interdit. Et puis, les titres, il faut qu'ils soient étranges. Je pense que c'est important qu'on ne prenne pas trop... Mais c'est un peu une souffrance quand il faut les trouver. Alors soit ils arrivent tout de suite, peindre et acheter, ça arrivait tout de suite parce que c'était une exposition dans un centre d'art qui est dans une énorme galerie marchande à Tarbes, qui s'appelle le Parvis. Et par contre, après, je présentais pratiquement les mêmes tableaux dans une chapelle à Château-Gontier. Et là, j'ai séché sur le titre. Alors je me disais, peindre et prier, non, c'est pas possible, je sais pas quoi. Je vais pas faire le même principe. Et puis... comme il y avait beaucoup de string et de petites culottes et de fesses dans mes tableaux, cette idée de requiem du string, ça sonnait pas mal. Quant à la prochaine, elle aurait dû rester au lit. C'est tout simplement la traduction d'un des films dont j'ai puisé des images pour faire des tableaux qui s'appelle « She should have stayed in bed ». C'est un film.
C'est une bonne traduction. Ouais.
Oui, tout à fait correct. Ouais. En fait, c'est venu comme ça sur le bord du trottoir avec mon galeriste. Il me disait c'est quoi ton titre? C'est quoi? Et j'étais là, je sais pas moi. Et là, je venais de peindre un tableau d'après ce film. J'ai dit, j'ai ce titre là, She Should Have Stayed in Bed, c'est pas mal. Oui, en français, ça rend bien. Allez hop. Puis après, je l'appelle une heure après. Est-ce qu'il faut mettre un accent circonflexe sur le « du » justement? Donc c'était assez drôle.
Pour revenir, rebondir aussi toujours sur les titres, puisque je suis en train de travailler actuellement pour le printemps de septembre, où je fais un espèce de feuilleton en 5 épisodes, c'est un feuilleton court. Et là, il y en a 3 qui sont en ligne sur le site du printemps de septembre. Et puis dans le deuxième, j'ai répertorié tous les titres des œuvres qui sont présentées dans les expositions du printemps de septembre pour essayer de voir celles qui m'intéressaient. Puis c'était un peu le même principe que sans titre, sans 100 titres. Et puis on va écouter en fait la carte postale que j'ai faite pour l'anniversaire de l'art du MAMCO. Et là, c'est aussi, quelque chose que j'ai fait qu'à partir de titres. Donc en fait, j'ai répertorié que des titres de films. Et j'en ai fait un texte. Donc c'était assez compliqué parce que les titres de films, il n'y a souvent pas de verbe conjugué. Alors si on veut écrire un texte, effectivement, on ne peut pas mettre juste la soif du mal, etc. Et tout. Donc en fait, c'est un texte qui a été composé qu'avec des titres de films. Il y a juste une exception où c'est « Je vous salue Marie » et « Marie » sert aussi à « Marie à tout prix ». Mais autrement, il n'y a pas un mot de plus qui a été... Alors, c'était un poster au départ que j'ai fait. Et puis quand on m'a demandé une carte postale, j'ai dit bah, « je vais le faire en son ». Je ne voulais pas enregistrer ma voix parce que voilà, ma voix, ça va. En plus, j'ai un accent suisse, ça ne va pas du tout. Donc j'ai pris une voix préenregistrée qui est sur un logiciel gratuit pendant 30 jours. On peut prendre ses voix. Et j'ai trouvé, en fait, ce qui m'intéressait, c'est la voix qu'on entend dans les transports publics à Genève. C'est une voix, voilà.
Deux ou trois choses que je sais d'elle, pour une poignée de dollars, sur la route de Madison. J'ai épousé une ombre, autour de minuit, dans le jardin du bien et du mal. La mariée était en noir, les chaussons rouges, le rideau déchiré, la sirène du Mississippi. Ma femme est une actrice qui a peur de Virginia Woolf, ma belle-mère est une sorcière, et au milieu coule une rivière. Je vous salue Marie à tout prix. Merci pour le chocolat, mon nom est personne, prénom Carmen, profession reporter. J'ai toujours rêvé d'être un gangster, ma vie est un enfer. Souviens-toi l'été dernier, une journée particulière, ça s'est passé près de chez vous, le crime était presque parfait. À l'ouest, rien de nouveau, les hommes préfèrent les blondes, dans la chaleur de la nuit, le facteur sonne toujours deux fois, sous le soleil de Satan. Il faut sauver le soldat Ryan, de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. J'ai engagé un tueur, à la poursuite du diamant vert, pour le meilleur et pour le pire. Certains l'aiment chaud, ce vieux rêve qui bouge, comme un chien enragé. Quelque chose va craquer, soigne ta droite, prends l'oseille et tire-toi. Nous nous sommes tant aimés, nous ne vieillirons pas ensemble, sous le plus grand chapiteau du monde. Adieu ma concubine, jamais je ne t'ai promis un jardin de roses. Pas de printemps pour Marnie, elle a passé tant d'heures sous les sunlight, dans la peau de John Malkovich. Ils étaient 9 célibataires, affreux, sales et méchants, l'homme qui tua Liberty Valance, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, l'homme sans passé, l'homme qui en savait trop, l'homme qui aimait les femmes, Vincent, François, Paul, et les autres. Qu'est-il arrivé à Baby Jane, la femme d'à côté, prête à tout, dangereuse sous tout rapport? Une sale histoire. Soudain l'été dernier, de sang-froid, j'ai tué ma mère, une femme sous influence, à bout de souffle. On achève bien les chevaux. On murmure dans la ville que la fête commence. Le bal des vampires? Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Papa est en voyage d'affaires, demain est un autre jour. Alice n'est plus ici, allez coucher ailleurs, j'entends plus la guitare. Mais qui a tué Harry? Mon oncle d'Amérique? Le kid de Cincinnati? Marius et Jeannette? Complot de famille? Mon père avait raison, les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. Autant on emporte le vent, les raisins de la colère, le mirage de la vie, l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty. La fête est finie, Rio ne répond plus, sauf qui peut la vie.
Ah oui, ne quittez pas. C'est pour vous, Fabienne.
Merci. Voilà, alors après les voix un peu foireuses, on va continuer sur les chorégraphies foireuses parce que quelque chose aussi qui nous lie avec Nina, c'est qu'on aime bien s'envoyer aussi des passages de films où il y a des gens qui dansent si possible assez mal. Et puis d'ailleurs, Nina a aussi peint des espèces de danseurs expressionnistes.
Non, c'était des mimes en fait.
C'était des mimes.
Oui, et le mime, c'est spécial parce qu'ils essayent, ils donnent du sens à leurs gestes. En fait, j'ai découvert un livre de photographie d'un mime très connu qui s'appelait Étienne Decroux, qui était le maître du mime Marceau, qui est très connu lui aussi. Et il avait fondé c'était une sorte d'anarchiste en fait, qui vivait chez lui à Boulogne et qui enseignait dans sa cave. Et il avait fondé le mime contemporain. Enfin, il y a un terme de son enseignement. Et d'ailleurs, grâce à ça, je me suis intéressée au départ parce que je trouvais que les photos étaient incroyables. Il était nu avec une sorte de pagne à faire des gestes, imiter des gestes de sportifs, etc. Et donc j'ai fait quelques tableaux d'après ses photos, les photos de son livre. Mais après ça, pour d'autres raisons, j'ai rencontré un mime qui s'appelle Varam Zarian, qui a une compagnie et qui a été le dernier élève de Marceau. Et je lui ai demandé de faire des pantomimes de Decroux devant mon rideau vert. Et ça fait un peu peur. Enfin, sur mon site, il y a des petits, on peut voir des petits clips comme ça que j'ai tournés. Mais c'est vrai que ce rapport au corps, pour moi, était difficile parce que pendant toute l'époque de la peinture conceptuelle, Alice, quand tu parlais que je voulais faire de la peinture conceptuelle idiote, c'était dans les années 90, donc c'est ce que je disais à ce moment-là. Et en fait, je me disais, du coup, je ne vais pas faire des gens, je ne vais pas faire des corps, parce que les corps, ce n'est pas conceptuel, c'est trop charnel, quoi. Et le corps est revenu petit à petit dans mon travail avec, au début, c'était des poupées ou des objets qui étaient anthropomorphes ou qui évoquaient ça. Les chevelures sans visage, des choses comme ça. Bon, et maintenant, je suis à fond dans le corps, puisque je tourne à partir de films où on voit beaucoup de jeunes femmes dénudées que je photographie. Et c'est vrai que la période de Crew était entre les deux. Mais la danse... parce qu'en même temps, j'aime pas du tout d'aller au ballet, quoi. Ça m'ennuie. Moi, j'aime l'opéra, et donc le ballet, en général, ça me, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Par contre, les films qu'on s'envoie avec Fabienne, par exemple, le dernier que tu m'as envoyé, c'était quoi déjà ? Il y avait des types qui dansaient avec, il y avait un groupe punk, voilà, un groupe punk californien, et les danseurs,
c'est comme avec un chiffre, non ? Quelque chose comme ça ?
Ouais, enfin, c'était plus. Pas des gens connus, mais ouais. Les danseurs, c'était des sortes de babas néo-californiens avec des bandeaux qui dansent, qui faisaient des chorégraphies de variété sur un groupe punk. C'était, le mélange incroyable. Ouais. Mais elle m'a aussi montré ce film Napoléon Dynamite avec un passage extraordinaire. Mais peut-être tu peux raconter quand ça arrive dans le film.
Oui, mais en fait, j'aurais voulu parler des Rois du Patin avant, parce que ça, c'est un des films aussi qui est quand même assez mythique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne connaissez pas, il faut absolument voir ce film.
Blades of Glory.
Là, c'est aussi... exactement. qui est aussi avec des chorégraphies, mais sur la glace, puisque c'est l'histoire de deux patineurs à glace. Et il y en a un, c'est comment il s'appelle ? Je ne me rappelle plus son nom.
Je ne sais pas le nom de ces acteurs. Il y a un brun et un blond.
Il y a un brun et un blond. Un brun très macho et un blond très efféminé. Et ce blond très efféminé joue aussi dans un film qui s'appelle Napoléon Dynamite, qui n'est pas génial, mais il y a une scène extraordinaire avec une chorégraphie où il danse très bien maladroitement, on pourrait dire comme ça.
Et devant un public médusé, complètement immobile, une sorte de scène.
Parce que c'est un type, c'est une espèce de nerd comme ça qui vit à partir de son ordinateur et tout. Et à un moment donné, quelqu'un lui donne une cassette pour apprendre à danser. Et il reste tout seul pendant des semaines à apprendre. Et il y a le bal de fin d'année où, je ne sais plus, il doit présenter cette chorégraphie. Et donc, il est très maladroit. Mais en même temps, tout d'un coup, quand il commence à danser, il y a un truc qui se passe. Donc,
nous, on a de la chance parce qu'on va voir, en fait, on va se rappeler de cette chorégraphie en entendant la musique.
Là, on va vous mettre un petit bout de la musique seulement.
Voilà,
Et
après, ce que je pensais, c'est qu'on pourrait enchaîner avec une petite carte de vœux que j'avais envoyée à tous mes amis il y a 2 ans, je crois, qui est aussi une... Parce qu'on va voir que c'est exactement la même tonalité que cette musique de Napoléon Dynamite. C'est vraiment le même genre de musique. Et là, c'est une chorégraphie qui était dans une émission de Mark Bolan. Alors, Mark Bolan, T-Rex, c'est un génie, je l'adore. Il est mort. Et bref, et juste avant sa mort, il avait un show télé aux États-Unis, en Angleterre, qui était entrecoupé de ballet. Je ne sais plus la troupe de ballet, comment elle s'appelait. Et donc, j'avais pris un petit bout de ballet ridicule. Et j'avais fait une petite boucle très maladroite qui ressemble beaucoup à la musique de Dynamite. Alors, on va peut-être écouter les deux l'un après l'autre. Sound.
that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through.
Ben, après tout ce rythme, on va un peu ralentir. Et moi, j'aimerais parler un petit peu de Roland Barthes, qui était quelqu'un d'important pour moi, mais que j'ai découvert pas tellement par les écrits, mais plutôt par la voix. Et ben, c'est en écoutant en fait ben, le Neutre, quoi, c'est le CD qu'a édité Gallimard. Et c'est quelqu'un qui a une voix absolument incroyable, qui ressemble, sa voix ressemble beaucoup à celle de Philippe Noiret, si ça vous dit quelque chose, Philippe Noiret. Et là, j'avais sélectionné un extrait dans le Neutre, je ne sais plus exactement où, où il parle de l'intelligence lente. Alors bon, au départ, je voulais relier ça aussi par rapport à quand je parlais de centre périphérie, enfin ce truc aussi de différence. Les Suisses parlent lentement, ont de la peine à s'exprimer, ont de la peine à comprendre. Voilà, donc quand ils écoutent ce genre d'extrait, ça les... console. C'est très consolatoire, je trouve, Roland Barthes.
Alors, je dirais que ce retard à comprendre, enfin là, je généralise un peu à partir de ce type de réveil, ce retard à comprendre, moi, je ne le mettrais pas du tout dédaigneusement au compte de la déchéance physique ou mentale. Comme si c'était bien, entre guillemets, et normal, entre guillemets, de comprendre vite, tout de suite. Je ne pense pas que ça soit tellement bien. Peut-être que le temps pour comprendre, la durée pour comprendre, est une sorte de temps divin. Le passage juste, le moment où on quitte la bêtise pour l'intelligence, sans être tout à fait intelligent et sans être tout à fait bête, c'est un passage juste qui est délicat, lent, bienveillant, d'une logique à l'autre, d'un corps à l'autre. Et si je pouvais un jour créer un dieu, eh bien je doterais ce dieu de ce qu'on dit, appelle familièrement une comprenette lente, une sorte de goutte à goutte du problème, que les problèmes s'éclaircissent goutte à goutte. Et en ce qui me concerne, je dirais que les gens qui comprennent vite me font toujours très peur.
Voilà, très très belle voix. Et je trouve que l'adjectif bienveillant et délicat, c'est quelque chose qui lui sied très bien. Si j'ai voulu mettre cette voix aussi, c'est qu'effectivement, bon, là je ne parle pas très lentement, mais enfin, je viens quand même de pays où on parle beaucoup plus lentement. Et par exemple, le cinéma, les premiers films que j'ai vus, enfin les films dans les années 60-70, moi j'étais toujours effarée, par exemple, quelqu'un comme Catherine Deneuve qui parle à toute vitesse, ou les films avec Jean-Pierre Léo, enfin je me disais c'est incroyable à la vitesse. Et une autre voix aussi qui n'a rien à voir, mais qui m'a toujours frappée par rapport à la vitesse et que j'adore, pas seulement pour le débit, mais pour cette espèce de ton très particulier, c'est la voix de la météo marine. Alors, j'ai pas eu le temps ce matin, mais j'aurais bien voulu prendre un bout de la météo marine, parce que je trouve ça assez génial. Et puis, cette histoire de lenteur et de vitesse, pour revenir à la peinture, moi, je me rappelle une fois, Nina, tu m'avais expliqué, parce que tu as fait toute une série de tableaux flous, dont j'en ai un chez moi d'ailleurs, je suis très contente parce que je suis une ancienne myope, donc je peux voir ce tableau en me rappelant comment j'étais quand j'étais encore myope. Et tu m'avais expliqué, il me semble, que quand tu peins des choses floues, tu dois le faire assez vite, non?
Non, c'est pas vraiment vite, c'est qu'il fallait faire toute la surface, il fallait faire plusieurs fois, parce que la première fois c'était raté, donc plusieurs fois il fallait peindre dans le frais, c'est-à-dire garder la peinture fraîche, quoi, tout. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas corriger un petit bout le, deux jours après, quoi. Donc c'était assez stressant, il fallait travailler des grosses brosses. C'est vieux, ça, c'était au début des années 2000. Maintenant, c'est vrai que... j'ai plus une technique maintenant, en fait, où je fais plein de tableaux à la fois, puis je les laisse sécher, et j'attends. Après, j'ai des périodes où je dois peindre Ou des fois, je fais des trucs en un jour. Mais c'est vrai que la peinture, c'est une organisation du temps de travail. En gros, voilà.
Okay. J'ai l'impression que tu peins, tu me donnes l'impression de peindre vite, et moi j'écris très lentement. D'ailleurs, je dis souvent que j'écris lentement des textes qui ont l'air d'avoir été écrits rapidement, ce qui est assez...
Non, mais je peins vite, mais par contre, tout ce qui est avant, c'est deux jours de préparation mentale, enfin, c'est vraiment, on se dit en fait pour pas grand-chose, mais finalement pour être relâché, quoi, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très difficile de parler de peinture à la radio. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire d'intéressant.
C'est bien, moi, je le trouve, de la description. Ouais. Et puis, pour revenir à Barthes, là, pour finir la boucle, quelque chose aussi qui m'intéresse chez lui, justement aussi dans le neutre, c'était la question de la non-réponse. Parce qu'il se pose la question, parce qu'à l'époque, il était sous-maturé, puis il n'avait pas envie de répondre, et dire comment s'en sortir quand on n'a pas envie de répondre ou qu'on ne sait pas quoi répondre. Donc il a fait toute une espèce de catalogue des non-réponses, c'est-à-dire c'est des réponses différées, des réponses à côté, ce genre d'histoire. Parce que lui, il parle par exemple aussi de l'idée du concept d'esprit d'escalier, c'est-à-dire qu'il dit mais je ne sais pas quoi répondre, puis c'est toujours le soir en rentrant chez moi que je me dis ah mais oui, j'aurais dû répondre ça, quoi. Enfin, ce truc de... il parle aussi de la tyrannie de la bonne réplique. Et ça me parle assez. La tyrannie de la bonne réplique, je trouve que c'est assez problématique des fois. Et puis, on va faire un lien avec les Olga Girls.
Oui, alors ça, c'est une voix aussi que j'avais envie d'entendre. On va entendre un extrait de film. En fait, c'est le seul film avec cette actrice qu'on peut trouver sur YouTube, cette actrice qui s'appelle Audrey Campbell et qui est une actrice pas du tout connue. Elle n'a même pas de page Wikipédia, c'est dire.
C'est vraiment une inconnue.
Pas vraiment, parce qu'il y a des blogs de spécialistes. C'est une actrice qui a fait des films, des Nudie Cuties dans les années 60, dont justement elle est dans ce She Should Have Stayed in Bed, elle aurait dû rester au lit. Elle joue le rôle de la fille qui se brosse les cheveux, justement. Donc elle est nue sur son canapé, elle se brosse les cheveux et en fait on est censé voir ce que voit une sorte de peeping Tom de voyeur qui se promène dans un immeuble. Bon, mais et le film qui est sur YouTube, c'est un... Après elle a été plus connue pour avoir fait une trilogie de films un peu sadomaso où elle joue une maîtresse, une dominatrice, Olga, c'est son nom. Et là, c'est la toute fin du film que j'aime beaucoup parce qu'on sent très bien l'atmosphère sonore de ces films qui étaient, faute de moyens, en fait, il n'y avait pas de prise de son, mais c'était toujours des voix par-dessus. Alors, il y a certains films où c'est juste un monsieur qui parle tout le long, qui dit « Cette fille est très contente de se déshabiller car elle a chaud », enfin, c'est des films, choses comme ça. Mais là, c'est un petit peu... Il y a deux voix, donc il y a un homme... qui raconte un peu, et puis après il y a la dominatrice qui elle fait le commentaire sur justement ces jeunes filles qu'elle prostitue, à qui elle donne de l'héroïne et qu'elle force à faire tout un tas de choses et qui après se sont vengées, enfin bref. Et là, bien qu'elle ait été rattrapée par toutes ces filles et torturée elle-même, elle revient, elle leur dit mais non, je ne suis pas encore vaincue, et elle la toute fin, elle dit attention mes petites souris, le chat est là, enfin voilà. Et donc on entend sa voix et juste après la publicité pour l'épisode 2 des Olga. Donc on est vraiment dans le climat des années 60, de ces films érotiques cheap tournés très rapidement, et voilà. Donc c'est une petite pensée pour cette Audrey Campbell.
Not bad. Someone's got good taste. Come on, have a drink. How about it, Connie? Having a good time, Susie? What's the matter with you? This is a party. Drink up. You'd better have your little fun, mice, because the big cat is back. What the hell is that? Now I've seen everything. You've spelled the word wrong. This is how it's spelled. Yes, my little mice, the cat is back. This time with sharpened claws.
Be sure to see the next thrilling full-length episode of Olga. Be with us when we present the further adventures of Olga in Olga's House of Shame.
Maintenant, comme on a parlé en fait de la maladresse dans la danse, la maladresse dans la parole, eh ben, on va terminer avec la maladresse dans la musique avec un petit extrait de Portsmouth Sinfonia, qui était un orchestre fondé en 1970 par les étudiants en art de Portsmouth avec leur prof qui s'appelait Gavin Bryas. Et il y a Brian Eno qui a fait partie de ce Portsmouth Sinfonia. Donc l'idée, c'est que chacun prenne l'instrument de quelqu'un d'autre. Donc si on est violoniste, on prend une flûte. Si on est oboïste, on prend la grande caisse, je ne sais pas. Et de jouer ils ont repris que des morceaux très connus comme l'ouverture de Guillaume Tell, Casse-noisette de Tchaïkovski, etc. Et ils ont même eu un concert au Royal Albert Hall en 1974. Voilà, puis ça s'est terminé en 1979. Portsmouth Sinfonia.
Donc voilà, c'était Postiche et Confusion, une discussion entre Fabienne Radi et Nina Childress pour Faisons de l'inconnu un allié.
J'espère que pour votre première sortie, vous n'avez pas fait d'imprudence.
Je voulais vous dire,